Bienvenue sur les ondes de Radio Grand Ciel. Jolie trouvaille, une émission proposée par Bernadette Loison et Anne-Sophie Chaubeau. Bernadette, bonjour.
Bonjour Anne-Sophie.
Alors, vous nous emmenez aujourd'hui, Bernadette ?
Alors aujourd'hui, je vous propose de retomber en enfance, puisque nous allons parler des jouets aujourd'hui. Alors, même s'il faut bien le reconnaître, les jouets de collection qu'on trouve en brocante, ça s'adresse quand même plutôt à des adultes.
À des collectionneurs.
Des collectionneurs, oui. Mais si vous êtes attiré à coup sûr vers un nounours tout à fait défraîchi, voire pelé, à qui il manque un œil, eh bien vous aviez sûrement exactement le même quand vous étiez tout petit.
Oui, c'est un petit peu un moyen de retrouver mon enfance. Alors, nous commençons cette chronique par les ours en peluche, Bernadette. Alors, est-ce que c'est récent ou c'est plutôt ancien ?
C'est très récent finalement les ours en peluche, puisque comparé aux poupées anciennes ou aux autres jouets en bois, la première peluche date officiellement de 1902. Elle a été créée par Richard Stuff en Allemagne. Et le succès a été complètement immédiat. La société vend près d'un million de peluches par an avant la Première Guerre mondiale. Après, il y a eu d'autres sociétés qui se sont lancées, mais il y a toujours eu beaucoup de succès. Je crois que si l'ours en peluche a eu autant de succès en 1902, c'est grâce à Theodore Roosevelt. Parce qu'il était parti à la chasse, il était bredouille, il n'avait rien attrapé, ses amis dans le Mississippi étaient très embêtés pour lui, et ils lui ont tiré vers lui un vieil ours. Mais l'ours était visiblement vieux, malade, et Theodore Roosevelt n'a jamais voulu tirer dessus. Ça a eu beaucoup de succès, cette histoire, surtout chez les caricaturistes. Et après, tout le monde voulait un teddy bear.
Oui, le fameux teddy bear. Alors, est-ce qu'on peut... Donc, on va dire que c'est récent. Donc, en fait, si on voit un vieil ours qui serait soi-disant du 18e, bah, c'est une arnaque, non? C'est
oui, ça. Il faut vraiment être très incrédule, même s'il a l'air très vieux.
Donc, il n'y a pas une cote très, très ancienne pour les ours, en fait.
Disons, elle reste assez récente. Et comme souvent pour les jouets anciens, la cote dont vous parlez, elle varie essentiellement en fonction de deux critères. Il y a l'âge de la peluche et puis il y a son état. Et les ours en bon état, il faut bien le dire, sont rares parce que souvent ils ont un passé assez terrible, assez tumultueux. Ils sont mis à rude épreuve. Un ours en bon état peut valoir 10 fois plus cher qu'un ours usé à qui il manque une oreille, par exemple. Les premiers ours Stuff dont on parlait tout à l'heure sont en mohair et ils ont un bouton sur l'oreille qui permet de les reconnaître très vite.
On les identifie avec ce petit bouton.
Ils ont des membres qui sont articulés. Alors, les yeux sont des boutons de bottine jusqu'en 1920. Après, on remplace par des yeux de verre, ce qui était très joli. Et puis, on finit par des yeux en plastique.
Oui, bien sûr. Alors, combien ça vaut maintenant un ours Stuff ?
Alors, si on trouve vraiment une merveille Stuff, ça se vend entre 2 000 et 5 000 €, ce qui est quand même très, très important. Mais les ours de marques moins prestigieuses se chinent souvent de 20 à 30 euros dans les vides-greniers. Ou alors, dans les commerces spécialisés, comme la clinique de la poupée, il faut compter environ 100 euros.
D'accord. Par contre, c'est vrai qu'on en voit assez peu, peut-être aussi parce qu'il y a un lien très affectif. Je pense que même quand on a eu un ours, on a du mal à s'en séparer, non ?
Voilà, on le garde, oui.
Même
moi, j'ai toujours le mien.
S'il est tout moche et rapiécé.
Voilà, c'est ça. Si on a la chance de trouver un ours en mohair, il faut quand même se méfier d'une chose, ce sont des mythes. Alors, il y a deux possibilités. Ou on met le nounours au congélateur quelques jours.
Une petite cure de froid.
Voilà. Ou alors, on achète de l'antimite, tout simplement.
Oui, la méthode plus classique.
Oui.
Alors, est-ce qu'on a des ours célèbres dans notre histoire ?
Oui, en plus du teddy bear dont je vous parlais tout à l'heure, il y a le Oscar, qui est le nounours de Nicolas et Pimprenelle. Ça a été créé à la télévision noir et blanc en 1962. Et on arrive à trouver sur Internet ce nounours-là avec Nicolas et Pimprenelle en bon état pour 40 euros.
40 euros pour les trois ou par...
Oui, pour les trois.
D'accord.
Il y a aussi Paddington qui a été créé par l'écrivain britannique Michael Bond. Il y avait une série de 13 livres qui ont été publiés en 1958 et jusqu'en 2012. Et la première peluche à son effigie a été créée en 1972. Et puis, il y a celui créé en 1950 par Olga Pouchkine, qui est devenue une véritable vedette à l'ORTF et qui s'appelle Colargol. C'est moi qui suis Colargol.
Et maintenant, mesdames et messieurs, allons, allons, tous assis, vous allez entendre Colargol dans son répertoire. Qui suis Colargol, l'ours qui chante en fa, en sol, en do dièse, en mi bémol, en gilet et en faux col, le roi des oiseaux, vous le savez mes amis, m'a donné un beau sifflet pour faire cui, 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 cui. C'est moi qui suis Colargol, l'ours qui chante en fa, en sol, en gilet et en faux col. C'est moi qui suis Colargol. C'est moi qui suis Colargol, je chante sans protocole, mieux que Jacques, Pierre ou Paul, en russe ou en espagnol. Le roi des oiseaux est un merveilleux ami, grâce à son cadeau, vous m'entendez aujourd'hui, dui, 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 dui. C'est moi qui suis Colargol, mauvais élève à l'école, mais premier au musical, c'est moi qui suis Colargol. Qui suis Colargol, mauvais élève à l'école, mais premier au musical, c'est moi qui suis Colargol.
Donc c'est moi qui suis Colargol que nous venons d'entendre sur Radio Grand Ciel, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous ces personnages dont je parlais tout à l'heure, Oscar, Nicolas, Pimprenelle, en ce moment au musée de la poupée à côté de Beaubourg, et c'est une exposition que vous pourrez voir jusqu'au 5 mars. C'est-à-dire l'année prochaine.
Tout à fait, jusqu'au printemps. Alors, est-ce que vous avez trouvé des trouvailles, des jolies trouvailles ce mois-ci, Bernadette ?
Alors, j'ai trouvé Place Billard, à la brocante mensuelle, un joli Mickey qui fait plus de 30 cm. Il est en plastique, avec de jolies couleurs, et puis à ses grandes mains gantées de blanc. J'en profite pour vous rappeler que Mickey n'a que 4 doigts et toujours une paire de gants blancs. Celui-ci n'a plus sous son pied le petit système qui lui permettait de couiner. Mais je ne l'ai payé que 5 euros et je trouve que c'est une bonne affaire.
Donc un Mickey pour la collection de Bernadette. Alors Bernadette, vous m'aviez dit que vous vouliez nous parler aussi d'un petit musée, un petit musée qui est donc près de Chartres, sur Rambouillet, c'est le musée du train miniature.
Oui, effectivement, je vous ai parlé donc de ce musée de la poupée qui présente tous ces personnages. Mais il faut savoir qu'à Rambouillet, ce qui n'est pas très loin de chez nous, il y a un musée dont j'aimerais vous parler, effectivement. C'est le musée du train miniature à Rambouillet. Il a été fondé par Jacques Villic. C'était un collectionneur patient à qui l'on doit d'avoir trouvé 4000 pièces qui sont exposées, mais aussi l'édifice qui les abrite. Il a tout laissé, les pièces qu'il avait trouvées et puis la maison pour les abriter. C'est au cœur de la ville, place Jeanne d'Arc. Et donc là sont exposés des jouets. C'est-à-dire qu'il y a quand même une différence avec les maquettes. Les maquettes, tous les détails comptent, c'est très minutieux. Alors qu'un train, c'est quand même un jouet. On est censé
jouer
avec. Voilà, c'est ça. Le jouet se veut économique et simple. Alors à la brocante qui se tient à Chartres place Billard, chaque troisième dimanche du mois, j'ai trouvé un carton contenant des rails Jouef, une marque qui est bien connue.
Oui, c'est la contraction de jouets français.
Voilà, c'est ça. C'est tout à fait sympathique, non ? Il y avait dans cette boîte une locomotive ancienne qui était assez jolie, même si elle avait besoin d'être restaurée, visiblement. Et puis, il y avait aussi quelques wagons et la caisse valait 30 euros. Pour les amateurs de trains miniatures, il faut surveiller aussi les dates des ventes spécialisées à Chartres. Il y en a très régulièrement.
Oui, tout à fait. Et puis, pour les amateurs de jouets, plus des hommes, quand on aime le train, parfois on aime bien les petites voitures, n'est-ce pas Bernadette ?
On aime bien les petites voitures. Et c'est vrai qu'en Eure-et-Loire, on a eu des petites voitures faites qui s'appelaient Solido. J'ai trouvé également dans une petite vitrine un camion rouge Solido pour 20 euros. Alors, ça peut paraître un petit peu cher parce que la peinture était quand même déjà un petit peu écaillée. Voilà. Et puis, il n'avait plus sa boîte. Mais c'était bien marqué en dessous, en relief, Solido. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Solido s'est installé en Eure-et-Loire en 1933 avec Ferdinand de Bazeille. Le père de Ferdinand de Bazeille était fondeur et il a invité très vite son fils à le suivre dans l'usine. Et un jour, le petit Ferdinand a eu l'idée d'utiliser une bougie d'allumage en lui mettant des petits trous pour faire une petite voiture. Et c'est ainsi que sont nées l'idée de faire des voitures Solido. Et ils ont aussi pensé à utiliser le zamac. Le zamac, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça permet de réaliser des jouets qui auparavant étaient en tôle et donc très cabossables. Le zamac, c'est un alliage de zinc, d'aluminium, de magnésium et quelquefois d'une petite louchette de cuivre par-dessus le marché. C'est en tout cas un alliage résistant, mais facile à travailler dans des moules. Et voilà pourquoi les jouets Solido étaient solides. Et dans les années 60-70, la marque fera des voitures militaires qui ont pour les collectionneurs actuellement une très grande réputation. En 1970, par exemple, il y avait 400 ouvriers dans 10 000 mètres carrés et c'était à Oullins, dans l'Eure-et-Loire. Vous comptez 100 euros pour un modèle en bon état avec sa boîte, c'est toujours la même question. Oui. Mais dans les vide-greniers, on trouve des Solido pour quelques euros.
Oui, alors on va préciser à nos auditeurs, bien sûr, la cote des jouets est très différente si on les trouve seuls ou dans la boîte d'origine. Mmh. Hein, notamment pour les Solido ou les Dinky Toys, quand on a la boîte, la cote du jouet double, voire triple.
Hein. Voilà. D'abord, souvent, ils sont en bon état s'ils sont encore dans la boîte. Et puis, effectivement, le fait d'avoir la boîte avec toutes les indications augmente le prix.
Alors, pour rappeler à nos auditeurs, Bernadette, est-ce que vous pourriez nous redonner les dates des brocantes sur...
Oui. Alors, à Chartres, c'est tous les deuxièmes dimanches du mois, il y a le rendez-vous des chineurs et c'est place des épars. Et tous les troisièmes dimanches du mois, c'est la brocante pour les collectionneurs, place Billard, sous les Halles. Et avant de vous quitter, je voudrais vous signaler aussi les puces d'automne qui auront lieu au parc des expositions.
Merci beaucoup Bernadette.
Au revoir.